BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h passé de 2 minutes. On est de retour pour la seconde partie de l'émission des experts avec aujourd'hui Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School, présidente du think tank Génération Libre, François Eckal, fondateur de Fipeco.fr, et Ryan Nézard, professeur à Sciences Po. On s'était quitté juste avant la coupure sur une promesse d'anecdote sur les retraites. Ryan, on vous écoute.
Non mais oui, juste pour faire bref, il y a deux principales dépenses publiques qui font à peu près la moitié des dépenses publiques, c'est les retraites et la santé. Sur les retraites, vous vous souvenez qu'en 2024, avait été décidée une revalorisation de plus de 5% pour les
L'inflation avait été très importante en 2023.
Du fait de l'inflation, et ça a coûté plus de 15 milliards d'euros aux finances publiques. Et
oui.
Avec, et je crois que c'est l'INSEE qui l'a évalué, in fine, en fait, plus de la moitié de cet argent qui a abondé l'épargne des retraités.
Les trois quarts. Je crois que c'est 75% de ces augmentations ont fini sur les livrets d'épargne des retraités.
Exactement. Et d'ailleurs, de tous les retraités, y compris les retraités plutôt modestes.
Oui.
Donc, ce qui fait que, en fait, la question, rétrospectivement, on peut légitimement se poser de savoir si c'était une bonne décision ou pas et pourquoi la décision a été prise. Moi, il se trouve que j'étais conseiller à Bercy, conseiller ministériel à ce moment-là. C'était Gabriel Attal et Bruno Le Maire qui étaient ministres. Bah, figurez-vous qu'en fait, la discussion a eu lieu à l'été 2023 de savoir s'il fallait ou pas revaloriser les retraites en janvier 2024, et la proposition avait été faite au ministre de ne pas les revaloriser complètement, justement pour tenir compte de ce coût pour les finances publiques.
Je rappelle que la réforme bande de 2023, au même moment, c'est 15 milliards d'économies.
Exactement.
À horizon 2030.
Exactement.
C'est-à-dire qu'en une signature, on a mis la France à feu et à sang pendant 6 mois, et en une signature, 6 mois plus tard, on a réduit à zéro les économies de la réforme.
Il y a d'autres enjeux avec une réforme des retraites liée au décalage de l'âge, l'emploi des seniors, mais en effet, en termes budgétaires, c'est plutôt équivalent. Et les ministres étaient pour. Et la première
Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Le président de la République, alors moi j'étais pas à la réunion, mais le débat était ouvert en tout cas. Et ils ont eu mandat, les ministres, de sonder les parlementaires. Parce que vous savez, pour ne pas revaloriser les retraites, il faut passer par la loi.
Oui.
Et donc il faut passer par un budget. Et donc il faut avoir une majorité. Ou en tout cas, faire un 49-3 et pas avoir de censure. Puisqu'à l'époque, il y avait déjà pas de majorité absolue, c'était une majorité relative. Et donc les ministres se tournent vers tous les groupes parlementaires, entre guillemets hors parti extrême, qui de toute façon voulait censurer le gouvernement, Parti socialiste, les écologistes, les républicains, etc. Et tous disent « Ah mais jamais, moi je ne voterai jamais cet article de loi, si vous ne revalorisez pas de 5% les retraites, je censure le gouvernement et on le fera savoir publiquement. » Et donc aucun parti n'était prêt à faire finalement un compromis, comme les Allemands le font quand ils ont des coalitions, y compris sur cette question difficile des retraites, comme les pays scandinaves le font sur cette question des retraites, et comme, j'en termine par là, les partenaires sociaux le font lorsqu'ils gèrent la GRCARCO, où ils décident, pour avoir un montant suffisant de réserve sur les retraites, on parle de réserve, nous parle de déficit, pour avoir un montant suffisant, parfois de ne pas revaloriser totalement à l'inflation. Donc, vous voyez, c'est juste une anecdote que je permettais de vous partager, qui montre encore une fois que la responsabilité est collective, et que finalement il va falloir un sursaut. C'est même pas patriotique, mais en tout cas un sursaut pour comprendre que cette question de la dette ne se réglera pas uniquement par un gouvernement, un parti politique ou une majorité. Il va falloir un effort national.
Ça prendra des années, tout le monde devra participer, effectivement.
Ça peut être assez rapide, ça peut être rapide. Pas forcément des années.
C'est du pluriannuel.
Il faut des décisions.
Quand même, mais effectivement. Et le rôle d'ailleurs des Républicains qui prônent la rigueur budgétaire dans cette histoire des retraites.
C'est pas pour stigmatiser les uns les autres, encore une fois, tout le monde a été...
Parfois, on peut, parce qu'il y a des enjeux politiques qui coûtent extrêmement cher à l'ensemble du pays pendant des années.
C'est aussi une belle illustration de la théorie des choix publics, encore une fois. Puisque là, c'est pour une histoire de votants, ils ont dit non.
Exactement.
Je dirais, il faut vraiment que les jeunes votent. Ça ferait des contrepoids.
Exactement. Nathalie, je continue avec vous sur le crédit privé. La crise du crédit privé dont on vous parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant sur BFM Business. Le crédit privé va-t-il provoquer la prochaine crise financière? Voilà le thème du nouveau débat depuis plusieurs mois. Les alertes se multiplient autour du crédit privé aux États-Unis, un crédit qui a explosé depuis la crise financière de 2008. Nathalie, d'abord, c'est quoi cette histoire de crédit privé? Soyons très pédagogiques ce matin.
Oui, alors là, on a affaire à une structure du système de financement aux États-Unis qui n'est pas la même qu'en Europe. Donc en Europe, on a l'habitude que les banques fassent du crédit à des petites moyennes entreprises, mais également à des grandes, directement. et elles se financent sur le marché bien moins. Donc voilà, comme on le sait, le financement par marché en France est assez limité, il est bien inférieur à 50%.
On dit souvent que c'est d'ailleurs, les ratios sont inversés, c'est 70% de financement par les marchés aux États-Unis, voilà. Quand chez nous c'est 70% de financement intermédiaire, c'est-à-dire au travers des banques, des marchés financiers beaucoup moins développés.
Donc en raison de cette différence, les banques américaines n'ont pas la même place. En fait, ce sont des institutions qui vont finalement faire du crédit, mais qui vont le vendre. Donc, il va y avoir un marché, effectivement, du crédit. Mmh. C'est ça, le crédit privé. C'est tout simplement, encore une fois, de la titrisation. Donc, on va mettre ensemble des prêts accordés à des entreprises dans des véhicules que l'on va vendre sur le marché. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas à avoir plus peur que ça.
Voilà, c'est un fonctionnement plutôt bien. C'est un marché de 2 000 milliards de dollars aujourd'hui.
Voilà. Qui fonctionne très bien.
Voilà. Alors pourquoi on a peur ?
Alors on a peur parce que à nouveau, c'est des problèmes d'évaluation. C'est-à-dire que si ces fameux produits titrisés, n'ont pas été correctement évalués au départ, effectivement, à nouveau, vous pouvez avoir des surprises sur l'évolution de la valeur du portefeuille. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une partie des titres sous-jacents qui, en fait, ne performent pas, en tout cas, ne sont pas remboursés. Et évidemment, ça veut dire que ce portefeuille en particulier, va revoir sa valeur de façon très brusque, brutale, puisque du coup, on va prendre en compte le fait que c'était pas aussi bien qu'on l'avait pensé au départ. Donc, et c'est ça qui est arrivé. Donc, c'était une des alertes les plus grandes avait été sur Blue Owls, il y a quelques mois peut-être, parce que le temps passe
quelques mois maintenant, oui.
Oui, et où effectivement c'était un peu leur spécificité était beaucoup effectivement sur l'IA, sur la tech, et en effet quand on a des produits titrisés qui sont peut-être un peu trop sectorisés et que en particulier on est sur des nouvelles entreprises, donc à nouveau c'est toujours la même chose, comment évaluer une entreprise naissante, c'est plus compliqué qu'une entreprise qui a 50 ans.
Eh oui.
Voilà, donc les peurs les déceptions sont plus à craindre, évidemment, sur des portefeuilles titrisés où il y a ce type d'entreprise plutôt nouvelle.
Évidemment, parce qu'on a beaucoup prêté à ces entreprises qui sont très consommatrices et de crédit et de capitaux, mais qui n'ont pas forcément de business model très installé et pas forcément de revenus encore. C'est des promesses de revenus à chaque fois.
Voilà. Donc en fait, il faut faire très attention effectivement à la façon, ce que contient ces véhicules de titrisation. C'est peut-être pas la fin du monde parce qu'il y a quand même une différence par rapport au subprime, c'est que vraiment le marché le prêt subprime était intrinsèquement évalué dès le départ. Ouais. Donc lui, c'était autre chose, c'était vraiment dès le départ, on n'avait pas le bon modèle d'évaluation. Alors que là, a priori, effectivement, là où ça pêche, c'est qu'en fait, ils n'ont pas toujours un business model très établi.
D'accord, donc ce n'est pas tout à fait la même histoire que les subprimes. Donc si je comprends bien, François Hickel, alors on s'éloigne un peu des finances publiques, on est plus sur la finance de marché, mais est-ce que ça vous fait peur cette...
Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de ce sujet, mais ce que vient de me dire Nathalie, moi, ça me fait quand même penser énormément au subprime. Je suis désolé, mais c'est la même histoire. C'est-à-dire
c'est qu'on prête de l'argent à des gens qui ne peuvent pas rembourser.
Des crédits immobiliers faits par des banques, qui ne les gardent pas pour des raisons réglementaires, etc., et donc qui les refilent à des entités beaucoup moins régulées, qui à l'époque les ont mal valorisés, parce que n'ont pas tenu compte du fait que ces crédits étaient accordés à des gens qui ne pouvaient pas les rembourser.
Si, ils le savaient, ça.
Voilà, oui, ils le savaient, ou ils le valorisaient mal. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait est qu'in fine, ça s'est trouvé mal valorisé, certains, donc ont fait faillite. Aujourd'hui, je comprends que c'est quand même un peu la même chose. Alors, pas forcément exactement, mais... Ça y ressemble beaucoup, et ça vient du fait qu'il y a une partie en fait aussi, derrière, il y a le fait que d'un côté il y a les banques, mais c'est vrai aussi en Europe, d'un côté il y a les banques qui sont hyper réglementées, et de l'autre côté il y a, je crois qu'on appelle ça le shadow banking, des entités qui ne sont beaucoup moins, qui financent en grande partie l'économie, et les banques ont tendance à refiler du risque vers ce shadow banking, parce qu'il est beaucoup moins régulé, et globalement ça présente quand même des risques. Enfin voilà, donc je suis pas rassuré.
Alors la réponse de Nathalie, puis après l'analyse de Ryan Nézard.
C'est quand même pas tout à fait la même chose, parce que on n'est pas à ce, enfin, on n'est pas dans les CD, on n'est pas au niveau des CDO, on est plutôt sur de la collatérisation, enfin, sur de la titrisation plutôt plus simple. Et puis, effectivement, enfin, je.
C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il y a dans ces.
Oui.
On sait ce qu'il y a dans ces produits titrisés.
Alors, on sait ce qu'il y a. L'évaluation. Je suis plus rassurée parce que l'évaluation, elle a quand même lieu sur des business models, ce qui est plutôt le cœur de métier des agences de rating. Je vous rappelle qu'en fait, les agences de rating sont allées noter des prêts hypothécaires subprime qui n'étaient pas du tout leur spécialité pour le coup, d'autant plus que les subprimes, leur valeur dépendait de l'évolution du marché immobilier.
Oui.
Et c'était pas du tout comme ça qu'ils étaient évalués. Donc c'est pour ça que je suis plus critique. Enfin, par rapport à, je ne dis pas qu'il va pas y avoir de casse. Je dis que l'amplitude l'asymétrie d'information entre ceux qui évaluent le produit et ceux qui le fabriquent est moins importante aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de casse à nouveau, puisque s'il y a un taux de défaut plus élevé, il y aura forcément de la casse.
Et qui paiera s'il y a de la casse?
Alors, après, ça dépend. Il y a ceux qui les ont achetés n'auront pas de revenus. C'est comme pour le reste. C'est-à-dire que le portefeuille performera moins. Et donc, c'est celui qui détient le portefeuille qui va subir les pertes, à moins qu'il ait lui-même une assurance.
Bon, Brian Nézard.
Ouais. Non, mais je pense que Nathalie Janson a raison là-dessus. Il faut être prudent. C'est-à-dire que le crédit privé aujourd'hui aux États-Unis permet quand même à des entreprises qui sont trop grosses pour les banques commerciales, mais pas assez grosses pour aller sur le marché obligataire, de se financer. Et notamment sur les fintechs, sur certains domaines, entre guillemets, innovants, sur l'IA. Donc, peut avoir son utilité. Par ailleurs, les rendements, j'ai regardé ce matin, c'est quand même assez impressionnant parce que. Sur plus de 15 ans, c'est quasiment deux fois le rendement du S&P.
Oui.
Ah oui.
C'est très rentable.
Et d'ailleurs, la taille de ce marché depuis 2010. En fait, on peut peut-être le. Je ne sais pas si vous le définiriez comme ça aussi, mais on peut peut-être dire que c'est aussi un marché qui s'est développé pour combler le vide laissé depuis 2010 par la réglementation bancaire, assurantielle, etc. Donc, qui répond quand même à un besoin qui n'est pas aujourd'hui rempli par le secteur bancaire. Et en 15 ans, la taille du marché du crédit privé a été multiplié par 15. C'est à peu près de 150 milliards de dollars.
Ah oui, il y a 2000 milliards aujourd'hui.
Après, il y a eu des inquiétudes ces derniers mois. Il y a un exemple qu'on peut aussi citer, c'est celui du fabricant de pièces automobiles First Brands, qui avait été créé dans l'Ohio et qui a fait faillite. Et c'était 10 milliards de dollars de passifs, et avec une exposition de certaines banques. Par exemple, UBS, qui était exposée à cette faillite, et d'autres établissements financiers. Donc, ce qui pose la question de la chaîne ensuite de faillite et de transmission.
Craindre à tout le monde à nouveau les mêmes.
Exactement,
quoi,
et de transmission
évidemment.
Au secteur bancaire classique d'une défaillance sur ce segment, on va dire, plus alternatif de financement. Là où il faut être prudent, il faut pas être alarmiste, mais il faut pas non plus être complètement béat, là où il faut être prudent, c'est que certes, les valorisations sont pas toujours très bien établies, sont pas toujours aussi régulières que sur un titre classique sur le marché bancaire, que le risque systémique est plutôt difficile à anticiper, mais aujourd'hui, le FMI, la BCE vous disent, il n'y a pas aujourd'hui en l'état de risque systémique, il n'y a pas les mêmes difficultés que pour les subprimes. Alors si on veut voir, pour terminer, le verre à contrario à moitié vide,
la même chose.
On peut aussi vous dire que les subprimes c'était 1000 milliards de dollars en 2007. Là, c'est 2100 milliards. Donc, alors, je compte pas l'inflation dans l'intervalle, mais c'est un marché qui est deux fois plus gros.
Il y a aussi beaucoup plus de liquidités en circulation.
Exactement. Ouais. Donc, le besoin quand même de supervision, y compris de coopération entre les superviseurs et entre les acteurs financiers, ce qui est loin d'être gagné, c'est un besoin quand même qui existe si on veut garantir effectivement qu'il n'y ait pas d'asymétrie d'information telle sur ce marché que ça crée des risques systémiques.
Il faut rappeler aussi qu'à la veille des subprimes, il n'y avait pas de problème ni pour la Fed ni pour la BCE.
Voilà, absolument.
Donc c'est pour ça que leur avis est à prendre avec aussi des pincettes.
Le disclaimer est surligné trois fois. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que vous y voyez plus clair sur ce sujet du crédit privé outre-Atlantique. Le dernier sujet, Nathalie, je me tourne vers vous, c'est un de vos dadas, vous aimez bien, c'est l'euro numérique. Moi, je n'y comprends rien à l'euro numérique. Je vais être très clair, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de ce chantier qui a été validé, endossé par le Parlement européen la semaine dernière. Donc l'Europe accélère sur l'euro numérique pour, dit-on, réduire sa dépendance aux géants américains du paiement. C'est un vrai sujet. Mais à quoi ça va servir vraiment? C'est quoi l'euro numérique? Et moi, ce que j'entends, c'est que quand même, c'est une traçabilité permanente. ça a un petit impact sur notre vie privée. Les données personnelles, c'est aussi important. Mais c'est quoi l'euro numérique, Nathalie Janson ?
Alors, l'euro numérique tel que ce projet le présente, c'est effectivement un équivalent numérique de votre cash. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu d'aller payer en cash, vous aurez un portefeuille euro de numérique et vous paierez avec. C'est émis par la Banque centrale, c'est pour ça que je le compare au cash et non pas au compte de dépôt des banques. Puisqu'en fait, c'est compte de dépôt, c'est géré par la banque, ça lui appartient, enfin, c'est une dette qu'elle émet. Alors que là, non, c'est bien la banque centrale.
Donc, quand je paye avec mon téléphone ou ma carte, parce que c'est pas de l'argent, c'est pas du cash, c'est du numérique aussi, hein, c'est des échanges informatiques. Mais c'est l'argent de la banque.
Exactement.
Là, ce sera l'argent de la Banque centrale européenne.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça nous apporte de plus ?
Alors, sur le papier, ça fait des années, donc certains vous diront, comme prof que j'avais croisé, de prof de finance Duffy aux États-Unis, qui m'a dit, de toute façon, Madame Christine Lagarde est obsédée à digitaliser quelque chose, parce que déjà à l'époque du FMI, elle voulait digitaliser les DTS.
Donc elle a une des droits de tirage spéciaux qui sont les crédits, en quelque sorte, du FMI.
Donc il me dit, je crois qu'elle veut y arriver avec l'euro. Alors effectivement, on peut se poser la question, et vous n'êtes pas tout seul pour se demander, mais pourquoi donc veut-elle absolument qu'on ait du cash sur notre portefeuille, étant donné qu'on est très bien aujourd'hui, avec des millions d'applications, avec nos cartes de crédit, avec Apple Pay, voilà.
A priori, on n'a aucun problème à payer quoi que ce soit.
Il faut savoir qu'en fait, il y a eu un fait majeur. Voilà, alors il y a deux choses. Il y a eu un fait majeur en 2019, c'est la tentative de projet par Facebook du fameux Libra.
Pas une crypto-monnaie, mais une monnaie privée. Quoi.
En fait, c'était l'équivalent d'une monnaie stable, un contrat. Et au lieu de le faire avec... Il avait envisagé le projet multi-devises. On va faire bref. En fait, le fait même d'avoir développé ce projet a réveillé les banques centrales qui se sont dit « Mon Dieu, j'ai un acteur privé qui pourrait faire un équivalent de monnaie comme la mienne, mais
privatiser la monnaie, en fait. »
Oui.
Et donc, s'en est suivi une course. La Chine est partie.
Il y a une grande bataille entre le pouvoir public et privé. Effectivement, c'est exactement ce que dit Ariane Nézard, une privatisation de la monnaie qui est dans l'ADN constitutif des États.
Oui. Alors que bon, faut quand même dire qu'aujourd'hui, la part vraiment publique de la monnaie, elle n'est pas si importante que ça, puisque il y a que les réserves des banques et puis finalement le cash qu'on détient. Le reste, c'est de la monnaie privée, les cartes de crédit, les comptes, tout ça. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, quand ils ont réagi, ils ont réalisé que finalement, ils pouvaient être concurrencés dans le cœur même de leur mission, la Chine est partie la première à créer son Digital Yuan qui existe aujourd'hui.
Ce sont les premiers.
C'est les premiers à l'avoir fait, qui étaient vraiment très en colère contre cette initiative. Ils se sont dit, il faut absolument qu'on dame le pion à tout le reste. Donc, ils sont allés là-dessus. Je pense que dans leur petite idée, ils se sont dit, si je me mets dessus en premier, comme par ailleurs, la monnaie chinoise n'est pas très internationale, ils se sont dit, je vais gagner des parts de terrain en étant la monnaie digitale nativement internationale en premier, et je vais pouvoir avoir des aficionados. À l'issue de ça, l'Europe, qui veut jamais se retrouver en reste, se sont dit, il va falloir que je fasse pareil. Les États-Unis, au début, se sont dit, pourquoi pas, mais eux ont eux-mêmes des monnaies stables qui existent privées, qui sont Tether et Circle, et avec Donald Trump a décidé qu'il n'y aurait pas de dollars électroniques. On en est donc aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, donc on comprend bien, c'est plutôt un combat politique et géopolitique sur la scène internationale pour essayer d'avoir un euro qui continue à avoir une place, qui existe. Le dollar n'a pas besoin de prouver, il est déjà là, il est
relayé
par la monnaie stable privée. Donc en fait,
c'est une question de survie, ce que vous nous dites, Nathalie Janson, de l'euro sur la scène internationale comme monnaie de change.
Mais elle n'avait pas forcément besoin de faire un retail, comme on le dit, c'est-à-dire pour vous et moi, elle aurait pu faire autrement. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle a choisi aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous en pensez, François Ricard ?
Alors, moi, je ne suis pas non plus un spécialiste de ce sujet, mais ce que je comprends, c'est que face à l'argument qui consiste à dire pourquoi faire un euro numérique alors qu'on a des tas de moyens de paiement. On a des cartes, on a Apple Pay, etc.
Souveraineté européenne nous dit...
Apple Pay, c'est américain. Les cartes, Visa, ESA, c'est américain.
On a CB, on a quand même le réseau CB,
mais qui est beaucoup moins utilisé. Voilà, c'est essentiellement américain, d'où le résultat dont on parle beaucoup, par exemple, c'est ce juge de la Cour de justice internationale qui ne peut plus rien payer parce que les Américains ont décidé qu'on lui retirait ses cartes de crédit, c'est Apple Pay, il n'y a plus, et c'est là. C'est terminé. Voilà. Donc le risque, il est là. Alors par rapport à ça, donc je comprends en effet que la Banque Centrale Européenne puisse faire, voilà, une espèce de porte-monnaie numérique en euros, etc. Mais ce que je comprends aussi, c'est que les banques européennes disent, oui, mais nous, on est aussi capable de faire la même chose.
Ben, c'est ça. Est-ce que ça peut fragiliser donc, les banques?
Alors, oui, bah oui, forcément, parce que si ça se développe, et la BCE, moi, si j'ai bien compris, prend bien garde de dire, oui, mais de toute façon, vous pourrez pas payer grand chose avec cet euro numérique. Ça va être plafonné. Ça va être plafonné, je sais pas combien, etc. Parce
qu'on dit 3 000 par moment.
Si en effet, on pouvait faire n'importe quoi avec cet euro numérique, il y aurait un gros problème pour les banques commerciales. Parce que toutes les transactions passeraient par les comptes, des comptes à la BCE, etc. Donc les banques commerciales disent, non, elles veulent pas, nous, on peut faire la même chose. Mais le problème, c'est qu'elles sont multiples. Des banques commerciales, il y en a des dizaines, des centaines en euros. Donc, il faut qu'elles se mettent d'accord. Et donc, la BCE dit, bon, d'accord, mais mettez-vous d'accord. Et comme elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, la BCE dit, bon, bah, on commence.
Et du coup, j'accélère.
Voilà. Donc, on est dans ce débat. Enfin, pour moi, je ne suis pas spécialiste.
Donc, 3 000 euros plafonnés, oui. C'est-à-dire, on pourra tous avoir un portefeuille BCE avec 3 000 euros dessus et on pourra acheter...
C'est le projet actuel, parce que là, le trilogue au niveau des négociations européennes entre le Conseil, la Commission et le Parlement ne fait que commencer.
Oui.
Juste pour revenir sur ce qui a été dit, je suis mille fois d'accord. C'est un enjeu de souveraineté, mais il faut le mesurer. Alors, ça paraît être un objet technique, l'euro numérique. En réalité, demain, la capacité à potentiellement en 2029, c'est ce qui est prévu, à payer avec son téléphone ou une carte avec un euro numérique, c'est-à-dire sans dépendre des banques, qu'elles soient européennes, américaines, quelle que soit leur nationalité, sans dépendre de solutions de paiement le plus souvent américaines. Visa et Mastercard, c'est 70% des paiements dans l'Union européenne. Donc ça, c'est un enjeu de souveraineté absolue, réel, et c'est pas une surprise que la Chine ait choisi d'aller sur ce terrain bien avant nous. Donc de ce point de vue, si on ne veut pas dépendre d'une infrastructure étrangère pour ce qui concerne la monnaie, qui est un des éléments de souveraineté les plus fondamentaux.
Mais là, vous parlez
des
moyens de paiement. Encore une fois, les moyens de paiement, je suis désolé, on a le groupement carte bancaire en France et en Europe.
Oui, mais deuxième élément, et c'est le deuxième point. Bien sûr, on pourrait faire sans la BCE, c'est ce que vous dites. Mais il y a un deuxième élément, c'est que le fait d'avoir des paiements instantanés, et c'est pas ce qui est prévu à ce stade par le texte, mais d'avoir des paiements sans frais de gestion, ça, c'est un grand changement. Et c'est ça qui, en fait, en réalité, fait peur aux banques. C'est-à-dire que les banques commerciales vont potentiellement perdre. Si ce projet d'euro numérique allait jusqu'au bout de sa philosophie, elles pourraient perdre toute une manne qui est la gestion des comptes.
Ah bah de la banque de détail, quoi. Exactement. Si on fait simple.
Aujourd'hui, c'est pas ce que prévoit le projet.
Quand même.
En réalité, le projet d'euro numérique qui est mis sur la table par la Commission est plutôt minimaliste. C'est-à-dire qu'il y a un plafond à 3000 euros par personne, c'est quand même très faible. Vous n'allez pas pouvoir réaliser des achats sur des éléments importants. Et deuxièmement, vous avez un maintien pendant 5 à 10 ans de frais de gestion qui serait indexé sur les frais de gestion des banques. Donc en fait, c'est un euro numérique à minima, ce qui est proposé, ce qui est aujourd'hui mis sur la table. De mon point de vue, il faudrait aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, on comprend bien les réticences des banques commerciales, mais à mon avis, tout ça ne peut être qu'au bénéfice des Européens, à une condition, et j'en termine par là, c'est évidemment la protection de leurs données personnelles.
Bah voilà, il y a un sujet de traçabilité quand même.
Oui, mais sauf que autant le portefeuille est connu par le titulaire du portefeuille, est connu par la BCE, autant les transactions n'ont pas à être connues. C'est pas on va pas avoir une blockchain sur laquelle
il semblait, on saura Raphaël Legendre. C'est ce que j'avais compris, qu'on pouvait tracer absolument tout de A à Z sur les paiements et à qui appartient l'euro. Oui.
Mais c'est pas ce que prévoit le texte, et heureusement, ça n'a pas à être un Big Brother numérique.
Nathalie Janson, la protection des données génération libre, c'est un sujet que vous traitez régulièrement, important.
Oui.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une crainte là-dessus?
Si, parce que de toute façon, la BCE effectivement dit aujourd'hui que ça sera géré et qu'effectivement ça sera géré de façon séparée et qu'elle ne va pas regarder. Mais bon, ça c'est ce qu'elle dit aujourd'hui.
Bah, voilà.
Et voilà, c'est tout le problème de la gestion des données.
Bah, oui,
et en effet, je pense que ce serait mieux d'avoir la gestion inverse, c'est-à-dire la gestion du côté de l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est à lui de décider si vous allez regarder ou pas ces données. Donc qu'on soit propriétaire de ces données, ce serait nettement mieux. Mais c'est vrai que dans ce débat, il y a toute cette dimension où tout ce qu'on fait aujourd'hui en disant voilà, ça va se passer comme ça, mais le jour où quelqu'un de malveillant arrive, ça va se passer comment? Alors on va me rétorquer aussi que de toute façon on nous trace déjà, et c'est vrai, vos paiements sont tracés, mais effectivement c'est moi qui librement le fais, puisque j'accepte d'aller sur ma etc. Si vraiment je veux rien faire, je peux retirer de l'argent et vivre avec du liquide. Je peux encore
c'est
le faire en tout cas en
fait, aujourd'hui. Hein.
Comment?
C'est très compliqué, même bah, pour
vous êtes,
quand on est salarié,
vous êtes surveillé pour être, vous êtes et puis vous êtes surveillé aussi puisque vous avez, pour des raisons de contrôle de l'argent, enfin de tout ce qui est
commerce
et du blanchiment. Oui. Vous êtes maintenant, vous ne pouvez pas utiliser.
Oui, au-delà
du liquide,
de 1 000 euros, de toute façon, tout est
alors,
envoyé à très.
Pour la petite histoire, ce qui est intéressant, qu'il faut savoir que on aurait pu choisir de ne pas faire 1 euro de détail, mais uniquement 1 euro, ce qu'on appelle de gros, c'est-à-dire.
Alors, c'est ce que j'avais entendu.
Voilà. Et moi, qui me semble être un truc beaucoup plus simple à plein de niveaux. Parce qu'effectivement, il est vrai qu'aujourd'hui, la blockchain monte. Donc, cette blockchain, elle est très utile parce que, enfin, elle est très efficace puisque, comme vous l'avez dit, elle permet des paiements très rapides. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pas beaucoup de frais, enfin, des frais minimes. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a les blagues de Pâques comme de Noël ou si vous faites pas un virement le mercredi, bah, il arrivera que jeudi prochain. Donc, effectivement, avec la blockchain, ça n'existe plus. Donc, les banques, comme la Banque Centrale sent bien qu'il y a une pression, et c'est bien pour ça qu'elle veut le moderniser. Elle aurait pu très bien moderniser toute son infrastructure avec les banques sans avoir d'euro numérique. C'est-à-dire, elle aurait blockchainisé la structure de là où il y a les autoroutes de paiement entre banques et avec la Banque Centrale et avec les autres banques centrales. D'ailleurs, on peut tout, et d'ailleurs, c'est vers ça qu'on s'achemine de toute façon, sans en passer par une version numérique. Donc, effectivement, la version de détail, désolé. Donc, la version de détail, c'est vraiment pour dire je veux exister en tant que moyen pour, effectivement, les individus et les citoyens. Et effectivement, c'est plutôt une histoire d'image et d'image de marque.
Ça marche, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nathalie Janson, c'était très clair, professeur d'économie à Neoma Business School. Merci François Eckal, fondateur de Fipeco.fr, et merci Ryan Nézard, professeur à Sciences Po. Cette émission passionnante est disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business.